Je présente maintenant notre conférencière. Il s'agit de Laurence Tubiana, qui est économiste. Elle est née en 1951 et elle est actuellement directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Elle a une formation d'économiste avec un doctorat de l'Université Paris 1 et un diplôme de l'Institut d'études politiques. Elle a été directrice de recherche à l'INRA, inspectrice générale de l'agriculture, consultante auprès de la Banque mondiale, de la CNUSED et de la Commission européenne, conseillère scientifique et membre du Conseil d'analystes économistes. Elle est spécialiste de la question du développement durable et des questions d'environnement sous leurs aspects économiques et internationaux. Et elle a également travaillé sur les politiques agricoles et commerciales. Elle a écrit de nombreux articles dans les revues spécialisées, nationales et internationales. Elle est l'auteur de plusieurs rapports, dont, je cite, disponible à la documentation française de 2000, Environnement et développement, l'enjeu pour la France, rapport au Premier ministre. Elle est directrice de la revue Courrier de la planète. Donc je lui donne la parole pour une 50 à 55 minutes. Ensuite, il y aura les questions.
Je vous remercie, assez ému d'être là, après tout ce cycle des conférences que j'ai lues, comme vous, dans la presse ou dans les livres publiés chez Odile Jacob, et l'impression qu'il y avait vraiment un savoir collectif qui était en train de s'élaborer et se faire, et que c'était, en tout cas, je le pense, un très grand privilège pour moi d'apporter ma petite contribution, de vous donner ce témoignage à la fois de chercheur, mais aussi de quelqu'un qui... au moins sous le précédent gouvernement, a eu à gérer, à définir, à m'interroger sur ce qu'était ce développement durable et à proposer quelques éléments de solutions pour affronter les problèmes qu'il signale. Je, comme vous tous, comme je crois qu'à la fois la société française et plus globalement les communautés internationales aujourd'hui, s'interroge sur ce concept, ce qu'il signifie. Est-ce que, au fond, c'est un effet de mode, comme d'autres, auquel on a assisté, bien sûr, depuis plusieurs dizaines d'années, au moment où, au fond, on cherche un concept pour essayer de résoudre des problèmes internationaux toujours les mêmes, qu'on ne résout pas. Est-ce que c'est simplement une image politique projetée par des gouvernements, ou est-ce que c'est une vraie interrogation? Je vais défendre le point de vue devant vous que c'est une vraie interrogation, que c'est un nouveau paradigme, parce que c'est une vraie interrogation sur la croissance économique et une vraie interrogation sur une remise en question, d'une certaine manière, du triomphalisme, peut-être, que l'on a connu avec l'idée que la croissance économique allait tout résoudre, qu'au fond, nous étions, depuis la chute du mur de Berlin, lorsque, en même temps que le mur de Berlin qui tombait sous la pression des aspirations démocratiques, nous pouvions, les uns et les autres, concevoir que ce monde unifié sur le plan politique se fondait du point de vue de sa régulation sur les mécanismes de marché, qu'on allait avoir un monde politique organisé autour d'un certain nombre de valeurs communes et un monde économique organisé par une régulation centrale, cette économie de marché à la fois formidable du point de vue de sa capacité d'innovation et d'adaptation et en même temps porteuse de beaucoup de problèmes et de critiques. Et c'est pour ça que la question du développement durable n'est pas dissociable, à mon sens, de celle de la mondialisation, de la globalisation. Elle fait partie de cette remise en question, de cette mise en perspective de ce qui nous arrive avec cette intégration économique croissante. Et penser l'un sans l'autre, c'est justement ne pas comprendre les problèmes qui se posent aujourd'hui à la planète et la manière de les résoudre. Je vais donc prendre le développement durable plutôt sous l'angle du revers de la question de la mondialisation, de l'interrogation qu'il lui porte, plus que sur les dimensions, toutes les dimensions locales, nationales. Je vais le prendre plutôt sous l'angle du défi posé par les problèmes globaux de la planète, par les problèmes collectifs. C'est vrai que la prise de conscience de la mondialisation a été aussi celle de la montée des risques, des problèmes globaux qui la menacent. Et c'est ce parallèle que je vais essayer de tracer devant vous, en me demandant d'une part quels sont ces problèmes, bien sûr, que nous avons à résoudre, et d'où vient leur perception, leur mise sur la table, pourquoi finalement cette communauté internationale faite d'acteurs étatiques, bien sûr, mais aussi de nouveaux acteurs comme les organisations non gouvernementales et les mouvements associatifs, mais aussi les entreprises, parfois même les collectivités locales, les mairies, toutes sortes d'acteurs qui aujourd'hui pensent aussi les questions globales, pas seulement ceux qui étaient jusque-là en charge de ces questions, et bien sûr les institutions internationales et les gouvernements. Et puis je vais me demander avec vous pourquoi, qu'est-ce qui a fait ce changement de perception et pourquoi finalement le système international d'aujourd'hui ne peut pas répondre à ces questions, qu'il est en butte à des questions, à des critiques majeures sur son fonctionnement, et qu'enfin il est aussi en butte aux divergences de vues croissantes qui sont sur la table. Perspectives différentes selon qu'on soit aujourd'hui européen, responsable ou citoyen européen, responsable ou citoyen américain aujourd'hui, des divergences de vues sur comment il faudrait conduire la planète, mais aussi manque de consensus du côté des autres acteurs des pays en développement. Et ces deux fragilités, ces deux points de faiblesse du système international, à la fois le système en question, celui d'aujourd'hui, et en même temps le manque d'accord sur ce qu'il faudrait en faire demain, nous projette dans un avenir particulièrement incertain sur ce qu'il faut faire. Et j'essaierai de citer quelques pistes de solutions, mais qui, vous verrez, reviendront plutôt à renvoyer aux citoyens de la planète la conduite des choses, plutôt qu'aujourd'hui au gouvernement, singulièrement incapable de les affronter. Je ne vais pas revenir parce que les uns et les autres nous baignons dans cette discussion sur la mondialisation et sur la globalisation. Simplement, peut-être pour nous signaler, pour nous dire que, en tout cas, le produit de cette interdépendance, cet accroissement des échanges de biens et de services, de capitaux, cette interdépendance croissante à cause de l'intégration des systèmes d'information internationaux, fait de nous une seule planète et en même temps nous montre que nous avons un certain nombre de problèmes collectifs à gérer. Nous avons une perception croissante, heureusement croissante, des risques collectifs. Aujourd'hui, personne ne dirait plus que faire le choix de l'énergie nucléaire ne signifie pas prendre des risques pour les autres, après l'accident de Tchernobyl. Nous savons que le transport des produits toxiques ou des déchets dangereux implique non seulement les choix des décisions nationales, mais aussi celles des autres, pour les autres pays ou les autres régions du monde. Et nous savons aussi que les pratiques qui dégradent l'environnement, celles de la surpêche, par exemple, dans les océans, ou les émissions de gaz à effet de serre qui produisent le réchauffement climatique, sont des phénomènes, même si c'est le produit des actions de chacun, qui impliquent l'autre, des autres nations, des autres sociétés, des autres citoyens. Donc nous avons des risques collectifs, des problèmes collectifs à gérer. Et finalement, avec la discussion, ce débat sur le développement durable, l'émergence de cette notion à Stockholm en 1972, émergent à Rio, au sommet de la Terre en 1992, et puis plus récemment, il y a un an maintenant, au sommet de Johannesburg, c'est cette interrogation sur ce que nous étions en train de faire de la planète qui a émergé. Et ce notion de développement durable essaie de mettre un frein, c'est en tout cas l'hypothèse que je prendrais, à ce triomphalisme de la définition d'un monde unique, géré par des mécanismes économiques uniques et qui, au contraire, montre que les questions de l'équité et de la justice sociale, à la fois au plan des nations et entre les nations, que la question de la protection des ressources naturelles, de l'environnement, des écosystèmes, à la fois pour nous, aujourd'hui, entre nous, mais aussi pour les générations futures, que ce sont ces exigences-là qu'il faut introduire dans la croissance économique. C'est donc bien une interrogation sur cette croissance que le développement durable porte. Cela ne veut pas dire qu'on sait très bien, car pour beaucoup de domaines, et certaines des conférences qui m'ont précédé l'ont signalé, l'ont décrit, cela ne veut pas dire que l'on sait exactement quoi faire, que l'on sait exactement quelle est l'étendue des phénomènes. Mais ce que l'on sait, c'est que oui, il y a des problèmes importants, et oui, il va falloir les résoudre. Et peut-être que la notion la plus importante, c'est que personne aujourd'hui ne peut les résoudre seul. Aucune nation, aucun gouvernement, aucun ensemble humain ne peut gérer ces questions globales seul. Il faut de l'action collective internationale, il faut de la coopération, il faut de la coordination entre les citoyens de la Terre, avec leurs représentants et leurs mandants, mais aussi de façon plus directe, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est très difficile, qui est bien plus difficile que maintenir la paix entre les nations, qui est d'agir ensemble sur des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Alors ces problèmes, quels sont-ils aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut les décrire ? Vous les connaissez, je vais les rappeler rapidement. Le réchauffement de la planète. On sait aujourd'hui, si les tendances d'émissions de gaz à effet de serre se poursuivent, que nous devrions observer un réchauffement en moyenne des températures du globe de 1,5 degré à 5,8 en 2050 ou en 2100. Ce réchauffement a déjà commencé. Mais la question qui reste est l'intensité de ce phénomène, ce qu'il va devenir, si on réduit ou si on ne réduit pas ces émissions de gaz à effet de serre, si on change profondément nos modes de consommation et de production. Quelles sont les conséquences de ce réchauffement ? On commence à en mesurer les conséquences en termes d'impact, d'étendue des dommages, sécheresse, accentuation des tempêtes, migration des espèces, inondations. La liste des risques est grande. Petit à petit, on commence à comprendre l'importance des risques économiques, sociaux, sanitaires que nous faisons courir avec ce changement climatique. Il y a la grande question de la perte de l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire des écosystèmes, mais aussi des espèces. Nous perdons aujourd'hui, même s'il est très difficile de le mesurer, nous savons qu'aujourd'hui, 11% des espèces d'oiseaux, 18% des espèces de mammifères, 8% des plantes sont menacées dès aujourd'hui d'extinction. Et les phénomènes d'érosion de la biodiversité se poursuivent à un rythme extrêmement rapide. Ce sont des milieux qui disparaissent, des zones, des espèces en entier. Et en même temps, parce que nous sommes une planète intégrée par les voyages, par le transport des marchandises, ce sont aussi des espèces étrangères à ces milieux qui viennent les coloniser et les transformer profondément. Les ressources marines sont aussi en danger, elles aussi, à cause de la surexploitation et de la pollution des eaux et des océans. Nous savons que c'est lié, bien sûr, aux activités humaines. Nous savons aussi que 2/3 des stocks de poissons sont aujourd'hui surexploités. Mais ce que nous savons aujourd'hui et qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que même si nous arrêtons cette surpêche, même si nous arrêtons cette surexploitation, eh bien, il n'est pas dit que ces stocks de poissons se renouvellent. Or, c'est bien sûr une partie très importante de l'alimentation de la planète et une partie même croissante. C'est la même chose pour les forêts, c'est la même chose pour l'eau, que ce soit pour l'irrigation de l'agriculture ou la consommation des humains. Et puis, c'est un monde d'inégalités croissantes. L'écart entre les 5 pays les plus riches et les 5 pays les plus pauvres s'est accru. Il était cet écart de 1 à 35 en 1950. Il est aujourd'hui de 1 à 72. Et dans le même temps, c'est un phénomène extraordinaire, la croissance économique a été si rapide, le produit mondial s'est accru de façon extraordinaire. Et en même temps, oui, pendant ce temps-là, il y a des pays, des régions qui ont vu leurs revenus par tête régresser de façon absolue. La pauvreté s'est accrue en même temps que la richesse s'est accrue. Aujourd'hui, une personne sur 3 vit avec moins de 2 dollars par jour. Une personne sur 7 souffre de la faim. Une personne sur 5 souffre de problèmes de santé liés aux pollutions urbaines. Une personne sur 3 n'a pas accès à l'électricité. Et une personne sur 4 n'a pas accès à l'eau potable. Alors, pourquoi cette inaction ? Devant des problèmes reconnus, je ne vous apprends rien en citant ces chiffres. Tout le monde les connaît. Tous les gouvernements les connaissent, ils ont été reproduits et reproduits pendant des rapports et des rapports infinis des institutions internationales. Pourquoi nous ne faisons rien ? Alors pourquoi cette inaction ? Je voudrais essayer d'expliquer les deux principaux obstacles qui font que la communauté internationale ne peut pas traiter sérieusement cette question du développement durable, qui pourtant, et d'une certaine manière, c'est positif, est devenu un horizon commun. Alors pourquoi je dis c'est positif ? Parce que ce qu'il y a de positif dans le panorama, c'est que conférence internationale après conférence internationale, on n'a pas beaucoup avancé sur les solutions, mais on a beaucoup avancé sur le constat commun que ces problèmes étaient d'une ampleur considérable et qu'il fallait les régler. on a finalement un agenda commun international. Alors aujourd'hui, pour faire court, on dit que ce sont les objectifs du millénium, de l'année 2000, où les Nations Unies ont figé un peu dans... Enfin, se sont donné une série d'objectifs quantifiés sur ces questions de développement durable qu'il fallait résoudre. Alors, pourquoi nous n'y arrivons pas ? Alors, la première raison, c'est que d'une certaine manière, c'est très difficile pour des gouvernements. Parce que ce sont eux qui négocient les accords qui peuvent faire permettre de changer les règles, qui vont faire que les différents acteurs vont changer de pratique, qui vont s'engager à des mesures et qui vont normalement les respecter. Ben, la première chose, c'est que c'est très difficile de prendre mesure du coût si on ne fait rien, du coût de l'inaction. La nature des problèmes, on les connaît. Ce qu'on sait moins bien, c'est vraiment qu'est-ce que ça va comporter comme coût. Alors, comme coût global, on a bien une idée, c'est grave, bien sûr, s'il y a des catastrophes naturelles de façon accrue. C'est grave si les pandémies se répandent, si les épidémies aujourd'hui du sida, demain d'autres, se généralisent sur la planète et qu'on a de plus en plus de mal à trouver les remèdes. N'empêche que préciser ce coût est extrêmement difficile. C'est plein d'incertitudes. On ne sait pas exactement ce que produisent des actions insuffisantes ou non coordonnées. Pire, on ne sait pas qui va supporter ces coûts exactement. Il y a une incertitude sur qui doit payer, qui doit faire un effort, qui doit s'engager. Et bien sûr, pour des gouvernements qui sont élus pour des durées, lorsqu'il s'agit de gouvernements démocratiques, mais les dictatures qui sont plus stables, en principe, n'ont pas vraiment montré une disposition particulièrement plus active dans la résolution de ces problèmes collectifs internationaux. Mais pour ces gouvernements qui sont élus pour des durées limitées, souvent soumis à la pression des groupes d'intérêt, les bénéfices de l'action pour régler les problèmes du développement durable, ceux-là, ils sont à long terme. Peut-être pour la génération suivante, en tout cas, certainement pas dans le cadre de mandats électoraux de 4 ou 5 ans. Alors, oui, c'est difficile de prendre des mesures douloureuses, des mesures impopulaires, des mesures qui vont contre des intérêts bien établis. On en a le cas en France tous les jours, si on regarde attentivement ce que les gouvernements arrivent ou n'arrivent pas à faire. Alors, les coûts sont certains à court terme. Réduire sérieusement les émissions de gaz à effet de serre comporte des coûts économiques importants, même si on a tendance à parfois les surévaluer. Mais les bénéfices à long terme, ceux-là, ils sont très difficiles à évaluer et très difficiles de savoir sur qui ces bénéfices vont principalement retomber. Ces coûts, en plus, sont inégalement répartis. Et c'est probablement la principale raison de l'opposition des pays en développement à un engagement trop prononcé dans la résolution de certains grands problèmes d'environnement. On peut peut-être imaginer les bénéfices à long terme, mais est-ce que cela ne signifie pas pour eux s'engager dans des réductions, des contraintes sur leur niveau de développement ? Les coûts peuvent parfois être très inégalement répartis, exactement comme les bénéfices. En même temps, il faut reconnaître que dans ces grands domaines du développement, ces grandes questions posées par le développement durable, c'est-à-dire au fond la qualité et la justice de notre processus de croissance économique, eh bien, la communauté internationale au sens large, les États, les gouvernements, y compris la communauté scientifique, elle a porté, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui et c'est heureux, elle a porté beaucoup plus d'attention aux problèmes liés à cette non-coordination, à cette incapacité de coopérer s'agissant des sujets économiques et beaucoup moins d'attention s'agissant des sujets d'environnement, de santé mondiale, de pauvreté. Le nombre d'experts qui se consacrent aujourd'hui à étudier les effets de l'instabilité financière est bien sûr bien plus important que ceux qui se consacrent à regarder les questions posées par les problèmes d'accès à l'eau ou d'accès à l'énergie ou encore de soins concernant les grandes maladies mondiales. Mais nous avons tout de même un système international en place, un système de gouvernance mondiale, c'est-à-dire un système de principes et de règles qui devrait nous permettre de régler ces questions collectives, de pousser les gouvernements, de pousser les entreprises à agir ensemble. Ces institutions, nous les connaissons, ce sont les institutions des Nations Unies d'un côté, les grands accords d'environnement de l'autre, c'est enfin les institutions internationales, le Fonds monétaire international pour les questions financières, la Banque mondiale pour les questions de développement, beaucoup d'autres agences régionales. Et au fond, l'Organisation mondiale du commerce pour régler les échanges de biens, de services, de marchandises. Ces institutions, d'une manière ou d'une autre, ont eu à traiter de ces questions. L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, l'Assemblée générale des Nations unies pour l'ensemble de ces problèmes. Mais ce que nous pouvons regarder, c'est que ces institutions, aujourd'hui, elles sont contestées au cœur même de leur fonctionnement. La première des critiques qui leur est faite aujourd'hui et qui fait qu'elles sont partiellement paralysées pour agir de façon importante, décidée, et pour contraindre finalement les gouvernements à assumer leurs responsabilités. La première des critiques, c'est celle de la légitimité. Aujourd'hui, les institutions internationales ne sont plus jugées aussi légitimes parce qu'on a l'impression qu'elles outrepassent leur mandat, parce qu'on a l'impression que, pilotées de loin par des conseils d'administration où les gouvernements ne sont pas toujours attentifs à ce qu'elles font, elles font un peu ce qu'elles veulent, elles ne rendent pas de compte devant les citoyens du monde, alors même qu'elles influent considérablement sur leur mode de vie, sur leurs conditions de vie, sur leur niveau de revenu, et même plus important peut-être encore, sur leur choix de vie, leur choix démocratique. C'est la principale critique, les principales critiques qui ont été portées à la manière de conduire leur politique de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces institutions économiques puissantes, puisqu'elles détiennent les ressources financières qu'elles prêtent aux pays en développement, eh bien, ces institutions ont suscité de la méfiance, des critiques aussi, notamment de la part des mouvements associatifs de la société civile, parce qu'il y avait vraiment des ajustements progressifs entre leur mandat officiel, ce qu'elles étaient censées faire et ce qu'elles faisaient en réalité. Et beaucoup d'exemples pourraient être donnés lorsque finalement la Banque mondiale a dû définir des programmes sociaux et en même temps intervenir très loin dans la manière dont les systèmes de santé ou d'éducation, par exemple, devaient être privatisés. Le Fonds monétaire, comme si des systèmes aussi, les systèmes douaniers ou les systèmes d'investissement devaient être réformés et privatisés. Il y a eu un moment où, c'est vrai, ces institutions ont été très loin dans la définition de politique nationale, alors même que les parlementaires, les élus, le système de la démocratie représentative existant parfois, étaient du coup incapables de définir les grands choix, les grands choix nationaux, vraiment les préférences pour des pays pour ces politiques. Donc première des grandes critiques, la question de la légitimité. Deuxième autre grande critique qui est portée à ce système d'institutions, c'est l'inefficacité. Alors d'ailleurs, ce n'est pas toujours les mêmes acteurs qui critiquent avec les mêmes mots. La question de la légitimité, elle est vraiment portée par les acteurs de la société civile qui contestent la manière dont ces institutions remplissent leur mandat, et notamment parce qu'elles ne sont pas transparentes et qu'elles ne rendent pas de compte. La deuxième critique, qui elle est portée par des acteurs extrêmement différents, celle de l'inefficacité, reproche tout simplement à ces institutions de ne même pas bien faire leur travail. Que peut-on dire après 30 ans, 40 ans d'activité, des résultats de la politique de la Banque mondiale en matière de développement? Ça ne s'adresse pas d'ailleurs qu'à la Banque mondiale, ça s'adresse aussi aux agences spécialisées des Nations unies. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des succès? Il y en a, mais tout de même, si je regarde cet écart des revenus entre pays riches et pays pauvres, si l'on constate l'augmentation parfois importante de la pauvreté dans certaines régions du monde, alors d'une certaine manière, oui, les institutions de développement ont failli majoritairement à leur débat. Alors c'est bien sûr les institutions internationales, mais c'est aussi les agences d'aide au développement national qui sont actives dans les pays développés. Donc inefficacité à contrôler les crises financières. Le Fonds monétaire international, qui est créé pour ça, a été incapable de gérer, de prévenir les crises qui ont successivement affecté la plupart des régions de la planète et la plupart des régions en développement de la planète, s'agissant de l'Amérique latine, puis de l'Asie, puis enfin de la Russie, enfin de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Crise financière, incapacité à générer un processus réel de développement, incapacité à réduire réellement la pauvreté et les inégalités, voilà tout de même des critiques majeures sur l'efficacité du système. Et ces critiques sont aussi bienvenues des courants conservateurs, on a pu les trouver sur les bancs des républicains américains il y a quelques années, prônant la suppression de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international parce qu'ils n'étaient pas efficaces, et rejoignant du même mouvement les critiques venant des plus radicaux, des courants critiques de ces mêmes institutions. Donc oui, l'efficacité de ces institutions est une question, surtout lorsque l'urgence des problèmes montre qu'on ne peut plus attendre pour s'attaquer réellement et sérieusement à leur résolution. Du point de vue de ces accords multilatéraux d'environnement, ou de tous ces accords qui sont tentés de protéger la forêt, de gérer la biodiversité, d'essayer justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour prévenir le changement climatique, on ne peut pas dire non plus que ces accords sont efficaces. Ils sont critiqués parce que tout simplement les normes et les règles qu'ils ont établies ne sont peu ou pas respectées. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment de significatif en matière de forêt depuis 1992, au moment où vraiment on a voulu lancer une action spectaculaire sur ce maintien des forêts? Rien. Les forêts ont continué à disparaître dans la zone tropicale. Bien sûr, elles ont augmenté dans la zone tempérée, mais c'est tout simplement parce que les moyens financiers permettent de remettre en plantation, de redonner des surfaces à cette forêt. Qu'est-ce qui est arrivé du point de vue de l'érosion de la biodiversité depuis 1992, au moment où on a lancé la Convention internationale pour la protection de la diversité biologique? Rien. Il y a eu poursuite de l'érosion des espèces, destruction des écosystèmes, même si des efforts ont été faits en matière de conservation. Et du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, eh bien on est sur une tendance aujourd'hui où on augmente régulièrement nos émissions, assez loin tout de même, malgré une certaine stabilisation des objectifs fixés par la Convention sur le changement climatique et le protocole de Kyoto. Troisième grande, et je ne parle pas de tous les domaines où là il ne se passe même pas grand-chose, je pense à la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte pour les droits sociaux, l'idée que nous avons finalement une efficacité extrêmement limitée. Alors, en partie, cette inefficacité, elle est liée à la manière dont le système est organisé. Le système est peu légitime aujourd'hui, pour des tas de raisons, pour l'évolution sans doute de la conception politique aujourd'hui, où on ne se fie plus seulement au gouvernement, aux États pour régler les affaires de la planète. L'efficacité parce que tout simplement on ne voit pas de résultats, mais aussi probablement parce que le système est profondément incomplet et déséquilibré. Il y a des institutions internationales très fortes, les institutions économiques, l'Organisation mondiale du commerce qui règle les échanges. Elle est efficace celle-là parce que c'est vrai. Depuis que ces règles ont été établies, et notamment après la négociation de l'Uruguay-Rand et l'accord de 1994, il y a des règles commerciales respectées, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut s'en réjouir. Les règles imposées par les institutions de Bretton Woods sont respectées parce que, tout simplement, elles ont des moyens de les faire respecter sous la forme des conditionnalités économiques. Mais les droits sociaux, la santé publique internationale, l'environnement, ben là, il n'y a pas de moyens de contraintes, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de cour internationale de justice qui pourrait faire respecter ces droits, il n'y a pas de sanctions économiques ou de conditionnalités pour que les gouvernements tiennent leurs engagements. Enfin, la dernière critique majeure de ce système international porte sur la question de l'équité. Cette équité, au plan multiple du système, elle n'est pas respectée, c'est très clair, bien sûr. Ça n'est pas tout de même, les pays ne sont pas tout de même dans le même rapport de force pour décider de ce qui doit être fait. L'accès aux négociations, la difficulté de se faire représenter dans ce système de négociation internationale, le coût que cela représente de faire entendre sa voix dans les enceintes internationales, tout ceci fait que ce système est inéquitable et représente, quand on regarde son agenda, ses priorités, l'essentiel des questions sur lesquelles on met des moyens financiers, des ressources rares qui sont à la fois le temps de travail des hommes et en même temps les ressources financières qu'il faut pour les accompagner. Eh bien, on voit que tout simplement, ça n'est pas les mêmes. Les priorités ne sont pas exactement dans l'ordre des pays, par exemple, les plus pauvres. Nous sommes très intéressés par le changement climatique et nous avons raison de l'être dans les pays développés. Mais ce n'est sûrement pas la priorité pour les pays en développement. C'est sans doute davantage la question de la pauvreté et de la santé, la question de l'accès à l'eau. En tout cas, l'agenda de la communauté internationale en matière de développement durable, il reflète d'abord, c'est encore malheureusement un fait, les priorités des pays développés. Et donc, il est, d'une certaine manière, fondamentalement inéquitable. Alors ça, c'est le premier gros obstacle pour que le système réponde vraiment à ces questions de développement durable. Cette question de légitimité, et donc que l'on puisse croire ces gouvernements, et que l'on puisse leur donner un mandat pour aller plus loin dans ce qui finalement contraint la souveraineté nationale, dans ce qui contraint les choix collectifs nationaux. C'est vrai que des règles environnementales sévères vont modifier nos modes de vie et que nous n'avons pas nécessairement envie que ce soit ainsi. Il faut donc que le système soit vraiment légitime pour que nous acceptions, nous, citoyens, ces modifications. Mais aussi, il faut que le système soit efficace, parce que pourquoi consentir des sacrifices si ça ne sert à rien ? Il faut aussi que le système soit équitable, sinon nous n'aurons pas de consensus international pour faire respecter ces décisions. Mais le deuxième grand groupe d'obstacles à cette progression dans la résolution des problèmes de développement durable, eh bien, pour obéir à ce nouvel horizon normatif, à ces nouveaux objectifs, qui voudraient que chacun ait accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, à une éducation décente et aussi un environnement sain. Eh bien, pour répondre à tout cela, il faut aussi que nous partagions, s'il s'agit de coordination internationale, s'il s'agit de coopération entre les nations, il faut bien que nous partagions cette vision entre nous, entre pays qui composent la planète. Et là, je dois dire que, pour avoir été un négociateur de ces accords pendant plusieurs années, pendant 5 ans, auprès du gouvernement de Lionel Jospin, à partir de 1997, eh bien, je dois dire que dans ces 5 années, on a vraiment baigné dans une période d'optimisme. Nous avons cru que nous étions en train de construire un ordre international où les normes, la négociation, les règles avaient plus d'importance que la logique de la force. Que la négociation, la coopération allaient l'emporter sur la logique de la puissance. Et puis, il y a eu ce réveil assez douloureux de 2001, au moment où l'administration Bush a pris le pouvoir, au moment où finalement, mais c'était sans doute inscrit dans toutes ces faiblesses que je viens de signaler du système lui-même, et au nom de l'efficacité, a montré que cette administration, cette puissance américaine, cette grande puissance qui a ce leadership, n'avait plus du tout la même vision de l'ordre mondial que celle qui pouvait être partagée jusque-là avec les Européens et les pays en développement. Et au lieu d'une... Et peut-être était-ce une illusion, ce sentiment d'optimisme. Et pendant ces 5 ans, nous avons pensé que l'Europe était en train de faire la médiation entre ce pôle américain, sans doute habité de courants contradictoires, cette grande puissance dont les décisions pèsent lourd, déterminent probablement très largement les décisions des autres, était tout de même finalement une puissance bienveillante qui pouvait en tout cas, moyennant négociation ferme, rentrer dans le concert des nations, aller vers la coopération internationale. Et que c'était la même chose pour les grands pays en développement. Malgré les réticences, malgré les interrogations légitimes, malgré le point, l'insistance mise sur la préférence pour l'équité. Et puis c'est vrai que depuis 2001, on ne peut plus entretenir cette illusion. On est obligé de constater que les visions de l'ordre mondial sont divergentes. On doit constater qu'aujourd'hui, pour cette administration américaine, mais qui... Il ne faut pas la caricaturer, elle reflète aussi un certain sentiment de cette grande puissance, que puisque sa sécurité n'est plus garantie au sein de son territoire national après les attentats du 11 septembre 2001, eh bien, il ne faut s'en remettre qu'à la logique de la force pour obtenir un ordre mondial. Et que la coopération entre les nations, ce monde de règles, c'est une gentille illusion. C'est une illusion que des puissances comme l'Europe peuvent se permettre d'avoir parce que, elles, cette grande nation que sont les États-Unis d'Amérique, garantissent la sécurité au plan mondial. Et c'est bien la logique des intérêts vitaux de cette grande nation, la logique de la puissance hégémonique, qui aujourd'hui motive les positions de cette administration qui pense que tout ce fatras de traités internationaux, tout ce qui pourrait contraindre la souveraineté américaine est une mauvaise chose et que ce qu'il faut faire, sans d'ailleurs nier la gravité des problèmes internationaux, enfin en tout cas certains d'entre eux. L'administration américaine est particulièrement active sur la question de la diffusion de la pandémie du sida, mais que s'il y a une hiérarchie de ces questions globales à établir et que cette hiérarchie doit obéir aux intérêts vitaux, stratégiques de la grande puissance américaine. Le sida, mais pas le climat, les problèmes de commerce illicite ou des trous noirs de l'économie mondiale, les problèmes de mauvaise gouvernance dans les pays en développement, la lutte contre le terrorisme ou le trafic de drogue, plutôt que la protection des forêts ou de la biodiversité. Donc, choix dans les sujets collectifs internationaux qu'il va traiter et volonté de les traiter de façon unilatérale à la manière de la grande puissance et en pensant que les autres pays vont suivre son exemple. Donc, développement d'une position unilatérale. Et pour caricaturer la formule de l'ancienne l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, l'ancienne secrétaire d'État, cette patronne du département d'État sous l'administration Clinton, Madeleine Albright. Madeleine Albright disait « Les États-Unis sont multilatéraux quand nous le pouvons et unilatéraux quand nous le devons. » Et d'une certaine manière, le vocable de l'administration Bush serait inversé en disant « multilatéraux quand nous le devons », c'est-à-dire quand on ne peut vraiment pas faire autrement, et unilatéraux quand nous le pouvons, c'est-à-dire tous les jours, puisque c'est ça la justification au nom de l'efficacité. Alors, bien sûr, cette justification au nom de l'efficacité, cette préférence pour l'efficacité, elle laisse de côté la question de la légitimité, de façon entière, et la question de la légitimité, c'est la légitimité du plus fort qui l'emporte, c'est celle-là qui fonde la vision de l'ordre mondial que développe aujourd'hui la grande puissance américaine. Alors, c'est vrai que, du point de vue européen, on continue à suivre la même ligne, on pense que la solution pour traiter ces questions collectives internationales, c'est l'ordre international, mais l'ordre négocié. Ce sont des règles, ce sont des principes. C'est abandonner la souveraineté pour partie de l'activité des gouvernements pour obéir à ces règles internationales. Et c'est vrai que c'est cette vision que l'Europe a développée, qu'elle continue à développer, non plus comme une... à partir bien sûr de sa puissance économique, mais de sa vision même de ce que devrait être la gouvernance, à partir tout simplement de son expérience, tirée des leçons à la fois des deux guerres mondiales qui l'ont traversée, des destructions et des massacres, et de l'idée que pour obtenir la paix, il faut coopérer et négocier, et il faut coopérer entre nations pour régler les problèmes collectifs. La position des pays en développement n'est pas du tout équivalente. Elle est aujourd'hui très incertaine et très confuse. Les pays en développement... très divers aujourd'hui dans leur position, et notamment les grandes puissances de ce groupe, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont aujourd'hui des pays qui, au fond, obéiraient volontiers aux sirènes du nationalisme, se diraient qu'après tout, c'est de la responsabilité des pays développés de gérer ces problèmes collectifs de la planète, et que verront, au moment où les pays développés auront pris leurs responsabilités, ce qu'il leur restera à faire. On voit bien que cette position est, du point de vue de l'urgence des problèmes, intenable, dangereuse. On l'a vu pour le début d'épidémie qui s'est déclenchée à Hong Kong et en Chine. Mais tout de même, il faut reconnaître que aujourd'hui, les pays en développement, à cause du caractère inéquitable du système international, ne veulent pas prendre leurs responsabilités et préfèrent finalement fonctionner comme des critiques du système plutôt que des membres actifs et responsables. Ils sont aussi enclins, parce que c'est aussi la tentation que leur offre l'administration américaine de s'en tenir aussi à la défense de leurs intérêts vitaux et stratégiques. Alors je ne voudrais pas être trop pessimiste et en même temps vous dire qu'il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent malgré ce blocage, malgré cette absence de vision collective internationale. J'irai un peu plus vite car je crois que tout de même j'approche de la fin de mon temps. Ces nouvelles perspectives, je vais rapidement les décrire. Il s'agit d'une certaine manière des dynamiques régionales qui se sont mises en place et qui traitent aujourd'hui, parfois de façon assez efficace, de ces questions de développement durable. Alors bien sûr, nous avons l'exemple de l'Europe, mais il y en a d'autres. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent dans la région des Grands Lacs, dans la mer Baltique. Il y a un début de coopération sur la question des forêts tropicales dans le bassin de l'Amazonie, entre le Brésil et ses pays voisins. Il y a, oui, c'est vrai, une dynamique régionale qu'on ne peut pas nier. C'est elle aussi qui permet de définir peut-être mieux, d'ailleurs, des préférences collectives, d'équilibrer ce que l'on veut en matière de justice et d'équité sociale, en matière d'efficacité économique et en matière de protection de l'environnement. C'est-à-dire de s'entendre sur ces trois piliers qui définissent le développement durable. Et bien sûr aussi, la légitimité des décisions est plus facile à établir parce que, tout simplement, dans un ensemble plus réduit, on peut ouvrir largement Et c'est par ça parfois été le cas, je pense, y compris aux expériences du Mercosur entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay et le Paraguay, où le débat public a eu sa place pour discuter de l'intégration économique régionale. Donc un mode de coordination qui existe, qui est une espèce d'espoir par rapport à ce blocage international. Ça ne suffit tout de même pas pour régler les problèmes collectifs, mais c'est une première base qui sans doute est une base intéressante et positive. L'autre dimension, l'autre je dirais, élément porteur d'espoir sur la modalité de résolution de ces questions globales, internationales, de ces questions de développement durable, c'est la manière dont aujourd'hui des réseaux d'acteurs extrêmement différents s'organisent entre eux pour résoudre une question particulière. Si les gouvernements sont incapables d'aller plus loin dans la construction d'un ordre international complet, de bâtir des systèmes de sanctions et de contraintes, ça, c'est vrai, s'ils en sont incapables, il faut reconnaître que, autour des questions de santé, par exemple autour des questions des vaccins ou de la lutte contre la pandémie du sida, autour des questions de protection de l'environnement, notamment de la biodiversité, il y a des réseaux qui se sont des forêts, il y a des réseaux qui se constituent aujourd'hui, qui sont formés d'acteurs extraordinairement hétérogènes et qui jamais n'avaient travaillé ensemble. Des organisations non gouvernementales, des gouvernements, des institutions internationales et des entreprises qui se réunissent parce qu'une question semble tellement urgente qu'il faut la prendre en charge. C'est le cas, par exemple, un exemple tout à fait extraordinaire de la commission sur les grands barrages. Vous savez que les grands barrages sont des équipements qui ont été violemment critiqués parce qu'ils avaient des effets sociaux et environnementaux parfois désastreux pour des régions entières, pour des bénéfices qui étaient souvent discutables. Eh bien, il y a une commission qui s'est réunie depuis 1998 pour traiter de la question de ces grands barrages, qui en associant les populations avec les experts scientifiques, avec les ONG et avec les gouvernements ou les institutions internationales pour essayer de dégager des consensus et trouver des solutions. Ce type de réseau est en train de prendre une place croissante dans la résolution des problèmes de développement durable. Et chacun, parce que chacun a un rôle à jouer. Les ONG, parce que c'est vrai, ce sont elles, en 92 notamment au sommet de la Terre, qui ont réussi à mettre sur la table les questions, à faire qu'on ne puisse pas les oublier. Mais c'est aussi les experts et les chercheurs. Ce sont les chercheurs qui ont mis la question du réchauffement climatique sur la table, qui ont empêché qu'on se bouche les yeux sur ce qui était en train de se passer. Et donc finalement, il y a dans ces réseaux une vertu qui est de dépasser, parce que ces risques sont globaux, complexes, incertains, finalement, le rassemblement de ces acteurs différents produit une vertu qui est celle de la coopération internationale que les gouvernements sont incapables aujourd'hui de mettre en œuvre. Enfin, il y a même parfois des initiatives privées qui sont complètement en marge de l'État ou des États. Un exemple très intéressant est celui, après le refus violent d'administration Bush de rentrer dans le protocole de Kyoto et de s'engager dans une politique réelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça a été la prise en charge par certaines villes aux États-Unis, certains États, certaines entreprises, d'aller contre la décision de leur gouvernement et de s'organiser seul pour remplir ces objectifs, pour remplir ces engagements que le gouvernement ne voulait pas assumer. Il y a aussi, parfois contesté, mais tout de même extrêmement intéressant, des entreprises et des ONG qui se sont organisées puisque nous n'arrivions pas à générer une convention internationale sur les forêts. Eh bien, il y a des grandes entreprises et des ONG qui se sont décidées pour essayer d'établir ensemble des critères de gestion raisonnée des forêts, de protection des forêts, et pour, au fond, définir un label permettant aux consommateurs, aux entreprises qui achètent du bois, de savoir que le bois qu'elles achètent vienne de forêts gérées durablement. Eh bien, cette initiative qui est entièrement privée, elle existe aujourd'hui, elle a gagné de l'importance, et aujourd'hui sont questionnées les entreprises où se questionnent les consommateurs qui achètent du bois qui ne vient pas de forêts gérées de façon durable. Je voudrais conclure en me disant que, au fond, il faut être réaliste. Les problèmes sont sur la table. Il est certainement de la responsabilité de chacun de continuer à maintenir la pression pour que ces problèmes ne soient pas oubliés, soit parce qu'ils sont trop difficiles à résoudre, soit parce que les coûts pour les résoudre sont aujourd'hui trop importants à court terme, soit parce que finalement on s'arrange bien, je prends la question du réchauffement climatique, on se dit que ce seront les autres qui en souffriront plutôt que nous. Et c'est ce qui est en train d'émerger aujourd'hui dans la discussion sur les dommages du réchauffement climatique. On pense aujourd'hui que ce sont les zones tropicales de la planète ou les zones subsahariennes qui souffriront le plus du réchauffement, beaucoup plus que les zones tempérées. Et donc, après tout, pourquoi pas peut-être laisser les choses se faire et compenser les pays qui seront les plus affectés plutôt que de s'engager dans un effort important de modification des technologies de production ou de notre mode de consommation. Mais si, bien sûr, on ne peut pas aller en avant dans les accords intergouvernementaux, eh bien, il faut aussi se fonder sur ce qui est la dynamique, sur ce qui est au fond la vie des citoyens, des accords, des entre entreprises et organisations non gouvernementales, de la dynamique des villes, des collectivités locales qui conservent cet horizon, qui conservent ces objectifs. Et je me dirais que pour aller plus loin, il faudra qu'on résolve toute une série de choses très difficiles d'ailleurs au plan du droit international. Comment est-ce qu'on va concilier un système international où des pays vont faire quelque chose et d'autres rien, comme dans le cas de la lutte contre les gaz à effet de serre? Comment est-ce qu'on va faire alors que des régions seront vertueuses du point de vue du développement durable et d'autres ne le seront pas? Comment enfin on va faire pour que des éléments qui sont aujourd'hui absolument exclus de la discussion internationale et très importants du point de vue de l'équité, comme la question des migrations par exemple, qu'on ne va pas pouvoir ignorer encore très longtemps. Comment faire pour que tout ça avance? Eh bien, je crois qu'il faut à la fois compter sur ces initiatives, les renforcer, les rendre visibles, mettre les entreprises par exemple devant leurs responsabilités. Il y a aujourd'hui des assemblées d'actionnaires qui le font, des campagnes d'organisations non gouvernementales qui amènent ces entreprises à répondre de ce qu'elles font au plan international, de leurs pratiques. Mais il faut aussi, je dirais, mettre les gouvernements devant leurs responsabilités. Il faut sans doute aller plus loin et faire du développement durable, de ses critères, ceux de la justice et de l'équité, de la lutte contre la pauvreté, ceux de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, un critère d'évaluation des politiques publiques et des pratiques privées. Si le développement durable devient un principe de gouvernement, pour les gouvernements démocratiques en tout cas, comme la défense de liberté ou le maintien de la paix et de la sécurité, alors les gouvernements seront évalués, jugés par les électeurs selon leurs réalisations, leurs engagements dans ce développement durable. Nous en sommes encore loin, mais au fond, il est de la responsabilité de chacun, la communauté scientifique auquel j'appartiens, de nouveau, des organisations non gouvernementales, des citoyens dans leur vote, dans leur demande de compte vis-à-vis des gouvernements ou des institutions, de faire que ce développement durable reste l'horizon commun, coopératif. Je crois que les risques sont là. Nous les connaissons. Nous avons encore à les informer, les documenter pour les comprendre. Mais l'action, elle, ne peut pas attendre. Et c'est, je crois, à ceux qui veulent gouverner, que ce soit lorsqu'ils gouvernent des grandes entreprises globales ou qu'ils gouvernent des États, eh bien c'est à eux, et c'est la demande que les sociétés humaines doivent leur faire, qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui est aujourd'hui, le complément naturel, la progression par rapport à la question du développement économique et de la croissance. Je vous remercie.
Nous sommes nombreux en Europe et plus particulièrement en France à déplorer la récente décision européenne de lever le moratoire sur ces OGM. Cet événement apparaît comme une nouvelle illustration d'un pouvoir politique déclinant, comme dit dans la conférence tenue hier et intitulée « Le politique va-t-il mourir ?» face à des groupements d'intérêts, vous les avez encore énoncés aujourd'hui, qui optent pour des décisions servant leur propre intérêt, justement. Nous en étions arrivés à un point hier, à un accord qui disait que les gouvernements ou les États, comme vous avez montré votre accord aujourd'hui, étaient dépassés sur certains points. J'aimerais savoir, puisqu'une porte est laissée ouverte par les députés européens dans leur discussion à propos des OGM, lorsqu'ils laissent une marge de manœuvre aux gouvernements, aux États, pour rédiger une législation nationale sur le principe de coexistence. J'aimerais savoir si vous, Madame Toubiana, en tant que conseillère présidentielle, connaissez les pistes du gouvernement français pour parer à ce principe de contamination, et particulièrement sur certaines cultures, notamment celles relatives à l'agriculture biologique. Si vous connaissez les pistes donc concrètes laissées donc à l'initiative des gouvernements et donc du gouvernement français quant à cette rédaction de la législation nationale. Je vous remercie beaucoup.
Comment est-ce qu'on fait? On prend les questions. Je réponds tout de suite. Voilà. Sur cette question des OGM, je crois que le grand progrès, je vais un tout petit peu en arrière, mais je n'oublie pas du tout votre question. Le grand progrès a été tout de même d'avoir une négociation internationale sur un protocole de biosécurité qui permet aux États nationaux de défendre une législation nationale qui peut effectivement refuser l'importation d'OGM s'ils considèrent qu'il y a un risque pour l'environnement ou la santé. J'estime personnellement que le travail que la Commission a fait, sous pression d'ailleurs des mouvements écologistes, a fait un progrès considérable dans avancer dans la notion de traçabilité de ces OGM, qui était le principal point de conflit avec notamment les États-Unis sur la question des importations. En même temps, à quoi nous servirait de continuer? Alors, j'ai comme tous des interrogations sur la question des organismes génétiquement modifiés, et surtout sur, moins d'ailleurs sur les perspectives de la recherche qui restent à développer et à montrer, et sur lequel je n'ai pas de position a priori. Au contraire, une nouvelle technologie, si elle peut apporter des bénéfices, doit tout simplement démontrer qu'elle les apporte. Mais bien sûr, il y a toute une phase pendant laquelle la recherche ne peut pas démontrer qu'elle les apporte. Il me semble que sur cette question, c'est vrai que la question majeure posée par le problème de la gestion du risque des OGM et de compromis collectifs de chaque société pour savoir si elle l'en veut ou si elle n'en veut pas, porte sur la question de l'évaluation de ses bénéfices. C'est sans doute le point sur lequel aujourd'hui, et qui du coup fonderait la politique, une politique gouvernementale sensée et rationnelle. La question n'est pas, me semble-t-il, de refuser ou pas les OGM sur le principe, mais de pouvoir informer une décision rationnelle pour se dire, si nous les acceptons à des conditions très précises, qui sont d'ailleurs, me semble-t-il, bien précisées dans le processus européen et dans de grands éléments de la directive, même s'ils ont été tout de même affaiblis par rapport au texte que nous avions défendu en 98 et 99. Donc ma perception est qu'il reste un volet très important pour que nous puissions prendre une décision démocratique et que le gouvernement puisse prendre une décision raisonnée, c'est comment est-ce qu'on va évaluer les bénéfices de ces cultures et comment est-ce qu'on va évaluer les bénéfices collectifs. On voit bien des bénéfices privés spécifiques, ce sont les entreprises qui tout simplement produisent cette technologie, on en voit mal encore les bénéfices collectifs. C'est pour cette raison que je ne suis pas très favorable, que je n'étais pas très favorable personnellement à la levée du moratoire. Et que je pense que nous avons encore, même si je peux comprendre que des pays soient impatients que nous levions ce moratoire, nous avons encore à progresser sur l'identification de ces bénéfices. Alors oui, je crois qu'il y a des éléments, il y a quelques espaces de marge de manœuvre des différents gouvernements. Il faut aussi reconnaître que dans beaucoup de cas, des directives prises à Bruxelles n'ont pas été mises dans le droit national parce qu'il y avait trop d'opposition et que ça venait trop en contradiction avec le sentiment de la majorité des citoyens d'un pays. Je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir un débat en France public sur ce qu'on veut faire de cette directive et la manière dont on doit la transposer dans notre droit. Il me semble vraiment que sur cette question des bénéfices, il reste encore beaucoup à travailler pour qu'on puisse se donner un certain nombre de critères. Si on doit aller à un conflit international, enfin un panel au sein de l'OMC pour trancher sur cette question, je crois qu'il y aura place pour un débat public et je suis plutôt optimiste sur le résultat. Alors c'est vrai que, bon, voilà, c'est ma position, mais je ne suis pas du tout dans ce domaine, ni dans d'autres d'ailleurs, conseiller de l'actuel président de la République.
Je voulais poser la question, vous avez décrit le problème de la pauvreté, mais dans la question des relations Nord-Sud, ne pensez-vous pas qu'il y a un lien très fort entre le développement durable et l'abolition? Il y a 150 ans, on parlait de l'abolition de l'esclavage. Depuis quelques dizaines d'années, on parle de l'abolition de la peine de mort. Et maintenant, il s'agit de l'abolition de la dette du tiers-monde, qui n'est qu'une autre manière d'attenter à la survie des individus. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qu'il faudrait lier à l'action sur le développement durable ? D'autre part, vous n'avez rien dit au sujet de la GCS, de l'accord général sur le commerce et les services, qui est mis en œuvre plus ou moins discrètement par l'OMC et qui propose de privatiser tout un tas de biens publics, de les soumettre aux lois du marché. Et enfin, sans remettre aux associations et aux bénévoles pour assurer le succès du développement durable, c'est un peu laisser ceux qui disposent de dés à coudre se battre avec ceux qui disposent de motopompes. Donc je ne suis pas très rassuré. Merci beaucoup.
Moi non plus, je ne suis pas rassurée. C'est d'ailleurs pas le message que j'ai voulu transmettre. Je vous ai décrit au fond ce que, à partir d'une certaine vision des choses, on pouvait espérer construire. Je constate que nous avons, d'une certaine manière, échoué. Je constate que nous avons échoué à construire un ordre international, un système international où les accords environnementaux, par exemple, aient le même poids que les accords commerciaux. Nous avons échoué. Nous devons le reconnaître. Alors, comme je ne suis pas du genre à pleurer, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on a pris quelques années, on recule aujourd'hui, et notamment depuis janvier 2001, alors on recule de quelques années dans le processus qu'on a cherché à construire depuis 92 ou même depuis un peu plus longtemps, et il faut prendre les moyens qui existent. Je suis sûre, et je ne pense pas que ce soit un dé à coudre, que la mise en évidence de ces objectifs du développement durable, le rappel incessant aux grandes entreprises globales, qui ont quand même beaucoup de poids dans la manière dont les normes internationales sont aujourd'hui élaborées et mises en œuvre, et que les grandes organisations non gouvernementales, oui, ont énormément d'influence, et que ça n'est pas des dés à coudre. Alors, ce n'est pas la question de ce... C'est quoi ? Quelle est l'importance et quelle est l'efficacité ? Ce n'est pas dans l'action, parce qu'il faut bien que les gouvernements fassent leur travail. Mais c'est exactement dans la manière dont ces normes vont devenir, doivent devenir, des normes de référence pour tout le monde, dont on pourra contester ou aux assemblées générales d'actionnaires, ce que feront des entreprises comme en France EDF ou ailleurs British Petroleum. Et encore, je parle de celles qui font du développement durable un peu une vitrine de leur action. Mais pour d'autres, alors je crois que quand les actionnaires de Total Fina Elf ou ceux qui sont autour de ce type de grandes entreprises pétrolières, ou celles des entreprises comme Nike, par exemple, on a finalement constaté que des actionnaires, des organisations de la société, des syndicats, leur demandent d'être cohérents vis-à-vis d'objectifs qui sont acceptés par la communauté internationale. Oui, je crois que ça fait un effet. Alors, ça ne marche pas forcément jusqu'à la traîner en justice l'un ou l'autre de ces dirigeants d'entreprise, mais tout de même, je pense que ça, c'est important. Alors, je n'ai pas parlé de la GCS, parce que, je me suis dit 50 minutes, qu'est-ce que c'est mon message ? C'est de dire... On a des gros blocages, on ne peut pas continuer à dire que le système international tel qu'il est va marcher et que ça n'est pas en l'améliorant à la marge qu'on va y arriver. Et qu'il faut prendre en compte, qu'il faut se réaliser que nous sommes dans un conflit de vision. Et qu'il faut, et ça, même si on caricature ou qu'on stigmatise plutôt, l'attitude américaine, ça ne changera rien. Ça ne va pas convaincre l'administration Bush qu'elle a tort, qu'il faudrait revenir à des sentiments plus multilatéraux. Il faut prendre en compte que la grande puissance a décidé qu'elle allait agir seule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore une fois, je crois que, effectivement, le message, c'est qu'il faut faire... Il faut continuer le processus de fabrication de ces normes internationales exigeantes en matière de justice et de développement durable, et que c'est ça qui doit permettre de juger les gouvernements, même si évidemment, le rapport de force n'est pas en la faveur de ceux qui vont le faire. Mais je suis beaucoup moins pessimiste que vous là-dessus. Je n'ai pas parlé de la GCS parce que c'est un secteur tout à fait important. L'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation est un problème majeur dans la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté. Mais cette AGCS, je pense que la discussion est ouverte là-dessus. Alors, contrairement, et nous sommes au sein de l'Institut du développement durable et des relations nationales que je dirige, en train de produire un certain nombre d'études pour essayer d'y voir clair dans ce débat. Je crois qu'il y a moyen, à l'intérieur de cette négociation des services, de montrer que, oui, il y a des risques très importants dans l'équilibre des droits et des devoirs des entreprises et des États lorsque ces services seront libéralisés. Cet accord peut tourner dans un très bon sens ou dans un très mauvais sens. Il peut tourner dans un très bon sens s'il y a un certain nombre de critères sociaux et environnementaux qui accompagnent la libéralisation des services, sachant que tout de même, les États sont quand même libres, au moins en théorie, de refuser l'ouverture de leur marché des services. Mais que dans certains cas, c'est vrai, ils en ont besoin. Ouvrir le marché des services dans le cadre de cet accord pose aujourd'hui le problème de l'équilibre des droits et des devoirs, exactement comme dans l'accord multilatéral sur l'investissement qui a été heureusement bloqué il y a quelques années maintenant, en 1997. Donc je crois que sur cet accord, sur lequel je vous invite peut-être dès que nous aurons publié les documents, mais je crois qu'ils seront très bientôt sur le site de l'IDRI, à regarder un peu ce qu'on peut faire. Et je crois que oui, il faut engager une discussion sur les procédures de cet accord, sur l'équilibre de, justement, des gouvernements pour définir des politiques protectrices et éviter justement les erreurs et les problèmes qui ont surgi, notamment au sein de l'accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, où on a vu que oui, la libéralisation des services pouvait poser de problèmes majeurs en termes d'autonomie des politiques nationales.
Oui, n'y a-t-il pas une certaine hypocrisie pour les uns et une grande naïveté pour les autres à avoir laissé remplacer par des économistes la contestation de la croissance, du progrès et du développement de certains écologistes il y a une trentaine d'années? Le développement ne gêne ni les multinationales ni les gouvernements productivistes. Quant à durable, ils le comprennent dans le sens « pour vous que ça dure ». On peut mettre dans la notion de développement durable n'importe quoi, et quand on entend les uns et les autres, on y trouve des choses complètement contradictoires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'étiquette sur l'analyse? J'ai entendu quantité de choses dont certaines sont discutables, mais est-ce que le drapeau dont on sert en tant que concept ne permet pas les équivoques et les absences de résultats dramatiques que l'on constate? Personnellement, je suggérerais comme alternative la notion d'adaptation, souhaitable.
Oh, les concepts peuvent toujours faire beaucoup de bien, donc si le vôtre marche, tant mieux. Et je ne peux que le souhaiter, développement durable, je trouve ça affreux comme mot. En plus, on l'a affublé sur le nom de mon institut parce qu'il fallait bien qu'on dise de quoi on s'occupait. Et je dois dire que tous les jours, je me dis, bon, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, il serait temps. Vous savez, quand on... Alors, pourquoi, au fond, c'est une bonne notion? Alors, pourquoi c'est une bonne notion? Je vais me faire l'avocat du diable, alors que vraiment, des jours, j'aimerais bien m'en débarrasser comme vous. Je trouve que c'est une bonne notion, parce que finalement, ça a mis sur la table... Revenons aux conceptions pures et dures du mouvement écologiste, qui a fait... Alors, que je ne critique pas, parce que c'est quand même lui qui a mis sur la table énormément de choses extrêmement importantes depuis longtemps, parce que... Ce mouvement existe dans l'entre-deux-guerres déjà. On a eu un mouvement écologiste qui a commencé à vraiment poser les choses sur la table de façon importante. Mais ce mouvement environnementaliste au sens large, avec toutes ses composantes, en matière, par exemple, de conservation des ressources naturelles, qu'est-ce qu'il a généré? Il a généré une opposition frontale et fondamentale avec les citoyens des pays en développement qui avaient le sentiment qu'on allait leur priver de leurs droits au développement. Et ça... Le développement durable, ça a quand même été une manière de commencer à discuter avec eux. Quand des mouvements écologistes ont, au plan international, je pense à l'Amérique centrale, je pense à l'Afrique, ont commencé à développer l'idée qu'il fallait faire des zones de conservation, de parcs naturels, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les populations locales dehors, parfois militairement. Oui, le développement durable, c'est une manière de dire, bon, là, on arrête, c'est pas ça qu'on va faire, il faut faire de la conservation, mais aussi de l'usage, il faut faire de la conservation et du développement. Et on ne va pas dire que parce que vous êtes dans une forêt, vous n'êtes pas bienvenu. Il vaut mieux que vous sortiez parce que la nature devrait être laissée à elle-même sous bonne garde. On a mis des barbelés dans certains cas. Bon, alors évidemment, dans des régimes pas spécialement tendres et plutôt autoritaires. Mais ce que je veux dire, c'est que le développement durable a permis de commencer à discuter avec ceux qui disaient « Vous nous amusez, vos histoires d'environnement. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 200 ans, à part détruire les ressources naturelles de la planète ?» Bon, alors si comme la dette écologique n'a pas vraiment fonctionné comme concept, ben oui, le développement durable, ça, je trouve que ça a été une manière d'y répondre. Deuxième chose, c'est flou. Eh ben c'est pas mal, parce qu'au moins on discute de ce qu'on fait. Le développement durable est vraiment... Parce que, alors, ça peut être n'importe quoi. Si on regarde les rapports de développement durable de certaines entreprises aujourd'hui, on se dit, bon, ils se fichent de nous, c'est une opération de communication. Mais il y en a qui sont un peu plus sérieux que ça, parce que ça commence quand même à les inquiéter. Je vous renvoie à certains rapports, dont quand même, quand je regarde ce qui sont en train de se faire, on voit que ça les inquiète pour de vrai. Alors pourquoi je pense que c'est bien que cette notion soit floue pour l'instant ? J'aimerais mieux qu'elle soit claire. Mais c'est parce que c'est quoi ? C'est un problème d'arbitrage. Comment est-ce qu'on va décider qu'on pêche plus ou moins ? Comment on va décider qu'on conserve telle ou telle partie de la forêt ? Comment est-ce qu'on va décider qu'on les veut les OGM ou qu'on ne les veut pas ? Eh bien, il faut qu'il y ait une délibération collective. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est mon point de vue aussi. Les gouvernements ne sont pas équipés pour prendre la décision. Il faut qu'il y ait un espace public de négociation pour discuter de ça. Et c'est ça qui est bien dans le développement durable, c'est qu'au moins, on dit, ben, on discute et on fait une délibération. Troisième raison pour laquelle je défends cette notion, qu'encore une fois, comme vous, j'aimerais mieux qu'on ait trouvé quelque chose de mieux. Et après tout, l'éco-développement qu'Ignacy Sachs, il y a bien longtemps, avait trouvé, me plaît infiniment plus. Et je regrette qu'elle n'ait pas gagné. Mais bon, de toute façon, pourquoi pas la vôtre, hein ? Peu importe, du moment qu'elle sert à discuter, à faire avancer, à prendre des décisions. J'ai rien contre. Moi, j'ai pas de religion et je veux bien me débaptiser demain sur mon institut si vous me trouvez un truc mieux. Alors là, au contraire, j'attends les suggestions. Donc, développement durable, la troisième raison pour laquelle je trouve c'est bien, à part la question que ça permet la délibération collective, c'est un opérateur fondamental de réforme de l'État. J'ai assisté à quelque chose. Alors là, laissez-moi témoigner de la petite expérience, le petit voyage dans la politique que j'ai fait comme chercheur et comme membre d'organisation non gouvernementale que j'ai été la plus grande partie de ma vie. J'ai vu, et c'était extrêmement drôle, parce qu'il fallait appliquer la directive européenne sur les habitats, ce qu'on appelle Natura 2000 dans notre jargon, qui était de conserver des espaces pour conserver des certain nombre d'espèces. Eh bien, j'ai vu des préfets. Alors, vous savez, le préfet dans la République française, ce n'est pas un monsieur qui discute, c'est un monsieur qui est là pour représenter l'État et pour faire appliquer la loi. Eh bien, j'ai vu de plus en plus des préfets être obligés de tenir des réunions publiques, essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait que cette directive, qu'il fallait discuter des instruments, puisque c'est l'esprit de cette directive européenne, de cette nouvelle loi, qu'il fallait au fond savoir si on allait faire passer les chemins là, conserver telle espèce, regarder ce qu'il fallait faire des ours ou des loups. Problème compliqué. Eh bien, j'ai vu des préfets faire ça. Oui, le développement durable, parce que c'est impossible de se décider tout seul, exactement comme au plan international, c'est impossible de faire tout seul, à amener une reconsidération de la méthode de gouverner, c'est pas fait. Il faut encore semblant, bien sûr, c'est normal. Mais c'est en train de se faire. En tout cas, c'est mon espoir.
Est-ce que la présence de textes de loi, d'organisation, ne cache pas souvent une inaction discrète ? Je pense à l'époque où un rapport du représentant de la Banque mondiale, sauf erreur, à Kinshasa, mettait en cause les prélèvements du président Mobutu sur les fonds de la Banque nationale, et où ce rapport a été promptement enterré et aucune action n'a été prise. Sauf erreur, c'était avant 1969. On l'a quand même laissé très longtemps. Pendant ce temps-là, on disait qu'on était pour l'honnêteté, contre les détournements, etc. Il y a d'autres exemples. Il y a dans l'emploi des clandestins, on dit on ne veut pas de clandestins en France, mais à peu près tous les chantiers de travaux publics, y compris les travaux pour des entreprises, enfin avec des contrats d'État, ont des clandestins. Et on a dit, les sociétés d'OGM ont dit nous faisons les essais avec un soin extrême et on s'essuiera les pieds sur le paillasson avant de sortir. Et à la moindre menace de manifestation, ils ont écrasé le maïs dans le sol d'une manière qui aurait fait honte à n'importe quel agriculteur simplement un peu propre, avec le risque de laisser des gènes se cavaler dans la nature d'une manière tout à fait inconsidérée.
Vous posez là une question très importante sur l'efficacité de la loi et s'il vaut mieux la loi et les règles plutôt que l'intervention. C'est vrai que... Alors, vous auriez l'administration Bush en face de vous, elle vous dirait, vous avez raison, ça sert à rien. Diplomatie préventive, on aurait dû enlever Mobutu et d'ailleurs, bon, ils l'ont pas fait, hein, c'est pas là où ils se sont Ils ont mal choisi leur direction, et on aurait pu leur suggérer. Bon. Mais enfin, c'est... Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez vraiment raison. Et d'ailleurs, y compris, pour ne pas caricaturer du tout votre propos, de tout à fait, je pense aux positions longtemps prises par Médecins Sans Frontières ou par d'autres organisations sur l'idée, les règles, c'est bien, mais alors, ça ne suffit pas. Et puis, parce qu'il ne se passe rien. Et que peut-être qu'il y a une ingérence nécessaire dans certains cas pour... Parce que la loi internationale n'est pas respectée, parce que tout simplement on n'a pas les moyens de la faire respecter ou qu'on ne veut pas. Bon, il y a différentes interprétations. On en aura, je crois, un peu plus depuis qu'on a une cour pénale internationale et qu'il y a eu des... Bon, c'est ça ma naïveté, c'est que je pense qu'on a tout de même une progression dans l'ordre international et qu'on commence à se doter de moyens, notamment les tribunaux pour le Rwanda... ou l'ex-Yougoslavie et la création de la Cour pénale internationale, la Cour de justice, qui me paraît être une chose extrêmement importante. Mais c'est vrai que je crois, et ça m'interroge, moi, comme citoyen, comme chercheur, c'est que quelle doit être, jusqu'où on doit laisser la souveraineté telle qu'elle est, là, définie dans le marbre, en disant ben, les États, dans leurs frontières, on ne peut rien faire. Eh bien, je crois que ça, c'est une question politique majeure qu'il faut commencer à discuter, parce que sinon, c'est plutôt les conservateurs et ceux qui sont pour la logique de la puissance qui vont prendre en charge cette question, qui vont faire la police en disant « Vous voyez bien, vous faites rien, les lois internationales ne s'appliquent pas, donc il faut intervenir. » Et je pense qu'il est de la responsabilité des secteurs qui ne pensent pas comme ça, qui pensent à la défense des citoyens et des victimes, qui pensent que justement les règles devraient être respectées, se poser la question de, au fond, est-ce qu'il ne faut pas mener une discussion, une remise en cause profonde de la notion de la souveraineté des nations et des États telles qu'on les connaît depuis 1848. Je crois que c'est une vraie question. Et là-dessus, c'est bien la pierre que l'administration américaine envoie dans le champ européen, en disant, c'est très gentil vos discours, votre morale, tout ça, vous êtes une belle puissance morale, vous faites rien. Vous n'exécutez rien. Et je crois que je dis ça parce que je crois que c'est une vraie nouvelle question. Bon, pour le reste, oui, vous avez raison, ils transgressent, ils ne respectent pas. Il y a deux poids, deux mesures dans la justice, y compris française. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais je pense que, tout de même, l'existence de règles internationales et même ceux qui souffrent le plus dans des circonstances les plus difficiles, je pense à l'opposant de Birman, encore aujourd'hui réenfermé, s'il n'y a pas de référence internationale, s'il n'y a pas de droit international, c'est encore moins. Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, tel qu'on est aujourd'hui, dans la période d'aujourd'hui, je pense qu'il faut tout de même réfléchir sur cette question d'ingérence et d'intervention. J'aurais jamais dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, je me dis après tout, bon. Il y a peut-être des circonstances où on ne devrait pas laisser des dictateurs faire ce qu'ils font en toute impunité. Bon, je vais me faire haïr pour dire ça, mais après tout.
Vous avez parlé de la communauté scientifique qui peut agir en faveur du développement durable. Et là, je m'intéresse plus particulièrement aux économistes, puisque vous êtes économiste. Ce sont des économistes qui ont mis en place une logique du marché libre. Maintenant, aujourd'hui, quelle théorie et dans quel domaine est-ce que les économistes agissent en faveur du développement durable ? Selon vous.
Alors bon, ma profession est très critiquée à juste titre parce qu'on fait beaucoup de prévisions, on fait beaucoup de recommandations et souvent elles ont été parfois assez catastrophiques. Alors aujourd'hui, comment on se rachète ? Ben, la communauté essaye de se racheter, c'est vrai. Hein, elle est un peu gênée quand même aux entournures parce que en ayant tout de même beaucoup écrit sur les bénéfices de cette intégration économique mondiale, de cette libéralisation des échanges, il y a un peu de bémol qui est mis. Alors le bémol, c'est lequel ? C'est de dire, bon, finalement, il y a quand même des problèmes, il y a des perdants et des gagnants à la mondialisation économique, et il va falloir il faut traiter cette question. Alors, et aujourd'hui, il y a d'ailleurs des économistes, y compris qui venaient des courants les plus favorables à la libéralisation des échanges, qui proposent une meilleure régulation. Et alors, c'est déjà ça, c'est-à-dire que la profession des économistes aujourd'hui, alors le plus bel exemple est celui qui a proposé pour les économies en transition ce qu'on a appelé la thérapie de choc. Jeffrey Sachs, à l'époque, en 1983-84, a été successivement en Russie, en Pologne, pour dire qu'il faut libéraliser tout de suite, brutalement, il vaut mieux le choc, c'est comme ça que ça va mieux se passer. Et puis, Jeffrey Sachs, avec qui je travaille aujourd'hui maintenant, a fait un peu sa conversion Alors, il est aussi convaincu maintenant que de l'inverse, ce qui est peut-être inquiétant, et où il dit, mais non, ça va pas. Il faut vraiment réfléchir sur comment on encadre cette mondialisation et comment on met ces objectifs de développement durable comme, c'est-à-dire, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, l'accès à un revenu minimum, la protection de l'environnement. C'est ça la priorité la libéralisation économique doit servir à ça ou sinon il faut qu'on la contrôle. Je crois que là, il y a un vrai débat qui s'est ouvert chez les économistes et qui est important. Deuxième chose importante, c'est que les économistes aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls à parler de ces sujets globaux. Et vous en avez eu un très bon exemple avec Gérard Mégy pour parler du réchauffement climatique. C'est que les sciences dites de la planète, les sciences de la vie ou les sciences de la Terre, mettent leur grain de sel et disent « Attention, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui est en train de se faire. » Et aussi, je vois l'émergence de la communauté médicale qui dit aussi les risques qu'on est en train de prendre avec la généralisation des pandémies, l'aveuglement dans le système de brevet international sur les médicaments, le fait qu'il faut que, y compris des mesures de type économique, doivent être redressées, doivent être modifiées, parce qu'on va à la catastrophe sur le plan de la santé. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette communauté scientifique, elle est plus... Enfin, l'hégémonie des économistes, qui était tout à fait réelle depuis le début des années 80, et même peut-être bien avant, elle est aujourd'hui contestée ou contrebalancée par les autres disciplines. Et je crois, enfin en tout cas je l'espère, cette communauté est traversée d'un très grand nombre de débats.
Quelqu'un a dit, le développement soutenable a une vertu, celle d'être compris comme un développement souhaitable, d'être un mythe porteur. Alors est-ce que le développement durable n'est pas une croyance ? Il dit que c'est un mot qu'on a lancé, comme ça, un bouchon, dit-il, et puis il faut le rattraper. Bon. Alors est-ce que ce n'est pas une croyance ? Est-ce que le développement durable est possible ? La question de l'énergie. Le développement a été porté par la déforestation, après par le charbon. Et ça continue d'ailleurs, hein, c'est dans l'ordre chronologique d'utilisation, mais on continue sur tous les plans. Le charbon, le pétrole, le gaz. Le nucléaire, actuellement, c'est 5%, en gros, au niveau mondial, c'est dérisoire. Et c'est tout. Donc c'est la déforestation et les énergies fossiles. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Actuellement, il n'y a aucune alternative. Les énergies renouvelables, qui ne fourniront jamais la quantité d'énergie qu'on gaspille actuellement, et l'hydrogène. Mais il faut plus d'énergie pour claquer une molécule d'eau que n'en produit la combustion de l'hydrogène obtenu. Bon, il y a la pile à combustible qui pose aussi d'autres problèmes, mais ça ne résout rien du tout. D'après l'ADEME, il faut deux fois plus d'énergie, miser deux fois plus pour obtenir, faut miser deux pour obtenir un. Alors, est-ce que rien qu'en parlant d'énergie, est-ce que le développement est possible ? Il est basé sur la croissance. Est-ce que la croissance est possible avec une décroissance forte de la consommation d'énergie, de la consommation de matière et de la production de déchets ? Vous n'avez pas parlé des déchets. Et on entend parler des déchets, des augmentations de cancer autour des incinérateurs, etc. etc.
Merci.
C'est vrai que je n'ai pas parlé des aspects plus locaux des questions, notamment d'environnement, parce que je me suis centrée sur mon problème globalisation, développement durable. Donc forcément, il y a tout simplement tout un tas de sujets dont je n'ai pas parlé. Alors, pour revenir sur qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est un mythe ? Bon, c'est pas tombé du ciel, vous savez bien d'ailleurs. Hein, ça a été un très long processus pour essayer de trouver quelque chose qui permettait de dire on n'est pas contre la croissance économique, on est pour une croissance économique, mais pas dans ces conditions-là. Et pas comme ça. Et ça a été un très long processus. Ça fait 30 ans que les gens travaillent sur le concept. Alors peut-être que celui auquel on a abouti n'est pas le bon, mais ça fait quand même 30 ans. Donc, c'est une histoire, il a une histoire ce concept, exactement comme la question de la libéralisation ou du marché comme mode de régulation économique a une histoire. Et ces deux concepts, d'ailleurs, se sont pratiquement choqués, hein, entrechoqués, d'une certaine manière, à Rio et en 92 et après. Et je crois que, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il a pour l'instant cette fonction, il a une fonction d'utopie nécessaire. Il a une fonction d'utopie parce que c'est ça qui permet de dire, au fond, si ça s'imposait à l'échelle mondiale comme critère d'évaluation des politiques, des pratiques, on aurait un monde en équilibre, un monde positif où, bon, où tout le monde y gagnerait. Mais comme utopie, il est extraordinairement utile, parce que quand même tout le monde réfléchit à quoi mettre dedans. Sur la question de l'énergie, vous savez donc comme moi, puisque vous manifestement vous intéressez à ce sujet, qu'on a beaucoup à faire sur la question de l'efficacité énergétique, que c'est quand même en train de se modifier profondément. Si on regarde les évolutions aujourd'hui de ce qu'il faut faire par point de produit intérieur brut en matière de consommation d'énergie, y compris quand on regarde un développement vraiment pas propre qui est celui de la Chine, on a un décrochage extrêmement spectaculaire entre le produit intérieur brut chinois et la consommation d'énergie, et on a vraiment là, on est en train de voir, c'est vrai, des comportements d'efficacité énergétique qui se développent. La ville de Pékin, par exemple, a passé ses bus de pétrole au gaz en moins d'une année. Il y a un progrès, et avec une grande efficacité énergétique dans le même sens. Il y a partout, aujourd'hui, des pratiques d'efficacité énergétique qui se développent. Donc je ne crois pas que nous ne sommes pas dans cette direction-là. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. La question, c'est un problème de vitesse. Et ça, c'est le problème du réchauffement climatique. Le problème n'est pas que nous ne sommes pas dans une société qui va essayer d'économiser l'énergie. Je pense qu'on est en train, on est exactement sur cette pente-là. Le problème, c'est la question de la vitesse. Alors, par rapport à la question de la vitesse, qu'est-ce que peuvent faire les énergies non renouvelables? Vous avez raison, pour l'instant, dans le stade de développement où elles sont, pas grand-chose. Alors oui, on va être obligé de se poser la question du nucléaire sérieusement, d'une façon probablement très différente de la manière dont le débat a été conduit jusque-là. Oui, il va falloir qu'on se pose la question, vous avez raison, sur le mythe de l'hydrogène. Alors là, pas plus que vous, je pense qu'aujourd'hui, la solution de l'hydrogène en est une. Hein. Donc, la question d'abord, aujourd'hui, tout de suite, c'est la question de l'efficacité énergétique. Et cette question-là, me semble-t-il, on est en train de la traiter. Le seul problème, c'est qu'on va vraiment, vraiment pas assez vite et qu'il nous manque donc toute une série d'instruments économiques, d'instruments fiscaux et plus d'ailleurs que de changements technologiques, parce que les méthodes, on les a de l'efficacité énergétique. C'est pas un rêve, on les a. Donc oui, c'est ça qui nous manque pour aller suffisamment vite.
Bien, Laurence Tubiana, merci beaucoup pour tout cet exposé et ces réponses.